Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Isolde Sicard, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Aliette Ovin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jordan Fuentes.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
L'actualité écho, décryptée par des acteurs, des chercheurs, des journalistes, c'est tous les vendredis à 14h dans Entendez-vous l'écho sur France Culture. Aujourd'hui, finance européenne, qui sortira gagnant du Brexit ? Il y a près de 3 ans, la City, la grande place financière de Londres, faisait campagne contre le Brexit. Aujourd'hui, alors qu'un accord de sortie entre le Royaume et l'Union européenne doit être soumis dans quelques jours au vote de la Chambre des communes, la finance britannique est plongée dans l'incertitude. Après la perte du fameux passeport financier européen, comment la City peut-elle se réinventer au lendemain de la sortie effective du Royaume-Uni le 29 mars prochain ? Le Brexit profitera-t-il aux grandes capitales européennes ? Et quelles seront les conséquences de ces bouleversements sur la régulation financière en Europe? Voilà les questions que l'on va poser à nos trois invités. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Henri Sterdignac nous fera découvrir la théorie macroéconomique d'Edmond Malinvaux. Trois invités autour de la table donc. Bonjour Catherine Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes économiste au département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, spécialiste de l'économie britannique. À vos côtés, Thierry Philipponat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et directeur de l'Institut Friedland, un think tank de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Et enfin, Stéphane Giordano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'AMAFI, l'Association française des marchés financiers. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Le nombre total des votes dépouillés en faveur du Brexit est de 82 000.
Le soleil s'est levé sur un Royaume-Uni indépendant.
Nous pouvons maintenant dire que la décision prise par notre pays il y a 43 ans d'adhérer au marché commun a été révoquée. Nous allons quitter l'Union européenne.
Je n'ai pas pris cette décision à la légère, mais je suis convaincu que c'est dans l'intérêt national d'avoir une période de stabilité avant d'avoir un nouveau chef de gouvernement.
Je suis très heureux, très fatigué, mais très heureux. C'est génial. On a vraiment travaillé dur sur cette campagne. On a eu ce qu'on méritait, ce que le pays mérite. On va aller de l'avant, être plus fort, commercer avec le reste du monde. Et surtout, on s'est libéré d'une dictature politique. On va pouvoir prendre nos propres décisions maintenant.
L'enthousiasme des partisans du Brexit après la victoire du Leave au référendum du 23 juin 2016. 2 ans et demi après, un accord de sortie a été conclu dimanche dernier entre Bruxelles et Londres. Accord qui ne fixe que les grandes lignes des relations qu'entretiendront le Royaume-Uni et l'Union européenne. L'avenir de la City est encore marqué par beaucoup d'interrogations, c'est peu de le dire, Catherine Mathieu.
Oui, effectivement, parce que l'accord qui a été adopté dimanche dernier par le Conseil européen règle effectivement la question de la période de transition. Donc une période de 2 ans qui s'ouvrirait à partir de mars 2019, quand le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne, et qui durerait jusqu'à la fin 2020, qui pourrait être étendue à 2021 ou 2022 si le Royaume-Uni et l'Union européenne le souhaitent. Pendant cette période de transition, en fait, rien ne changera pour les acteurs économiques au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. Le Royaume-Uni continuera à faire partie du marché unique. Mais au-delà de la période de transition, aujourd'hui, on ne sait pas quel sera le type d'accord qui sera négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et c'est bien sûr un enjeu important pour la City, parce qu'aujourd'hui, les institutions financières britanniques bénéficient du passeport européen en étant membres de l'Union européenne. Lorsque le Royaume-Uni quittera l'Union européenne, elles n'auront plus, après la période de transition, donc en 2020, 21 ou 22, elles n'auront plus ce passeport. Et donc maintenant, il s'agit de négocier, en fait, quel type d'accord aurait lieu entre les Britanniques et l'Union européenne. Alors on parle, les Britanniques souhaitaient évidemment garder un accès le plus simple possible au marché financier européen, avaient souhaité qu'il y ait une reconnaissance mutuelle entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. On est actuellement dans le texte, la déclaration politique qui a été adoptée dimanche dernier, simplement sur la notion d'équivalence.
Alors on va revenir sur toutes ces notions et en effet sur les conséquences de la perte de ce passeport, mais d'abord sur cette idée de grandes incertitudes pour la finance londonienne et aussi pour les places financières européennes qui espèrent capter une part des entreprises actuellement basées à Londres. Thierry Philipponat.
Oui, l'incertitude est assez considérable. Peut-être qu'il faut déjà poser les chiffres. La City, c'est 150 milliards de livres sterling de revenus par an. Et puis, si on ajoute, ça fait 8% du PIB britannique. Si on ajoute les services connexes, juridiques, comptables, expertise en tout genre, on arrive à 12% du PIB britannique. On estime qu'il y a environ 20% de ce chiffre qui est généré depuis Londres à destination de l'Union européenne. Donc on est en train de parler de 20% de 150, c'est-à-dire 30 milliards de livres sterling sans les services annexes, de business qui est impacté. Donc c'est tout à fait considérable. Alors, ce business, il était fait, alors on parle souvent du passeport, il y a un tout petit raccourci quand on parle du passeport, c'est parfaitement exact dans le concept, mais en fait, il existe aujourd'hui environ 360 000 passeports différents, détenus par 13 000 sociétés différentes, 8 000 qui vont du Royaume-Uni à l'Union européenne et 5 000 dans l'autre sens, voilà. Ce qui veut dire que les passeports, c'est quelque chose de très très granulaire, c'est détenu par service, par type d'activité, par entreprise, et donc il y a une myriade de choses à rediscuter, à renégocier pour que tout puisse continuer.
La City s'est battue de toutes ses forces contre la perte du fameux passeport financier européen, Stéphane Giordano, et c'était évidemment un enjeu absolument central.
Oui, c'est un enjeu central pour l'ensemble des intervenants britanniques, enfin installés au Royaume-Uni, tout simplement parce que Londres a servi de longue date de porte-avions à l'ensemble des acteurs britanniques, mais aussi américains ou asiatiques, pour servir les marchés de l'Union européenne. La perspective, de ce point de vue-là, de perdre le bénéfice des passeports que rappelait Thierry, est évidemment assez angoissante de ce point de vue-là, d'autant que le régime qui tendrait à remplacer ce passeport, le régime des équivalences, est par nature assez précaire et donc suppose une adaptation stratégique assez majeure.
Mais je reviens à ma question, cette incertitude, cette angoisse de cette absence de visibilité, elle concerne évidemment la City, mais aussi, j'imagine, les autres places financières européennes. Comment Paris, par exemple, réagit face à cette absence de visibilité, Stéphane Giordano ?
Alors, il y a deux choses là-dessus qu'il faut rappeler. La première, c'est que collectivement, les institutions européennes et les places financières dans leur ensemble ne souhaitaient pas le Brexit. Maintenant, c'est une décision souveraine du peuple britannique, donc il faut le prendre en considération. La deuxième chose, c'est que du point de vue économique, le Brexit est un jeu à somme négative. Donc c'est une perte nette pour la collectivité de l'Union 27 et du Royaume-Uni. Ceci posé, les places financières en dehors de Londres s'organisent depuis le 23 juin 2016, depuis le vote de sortie, pour essayer de récupérer un certain nombre d'activités financières, et d'autant qu'il s'agit à l'échelle de l'Union européenne aussi d'une question d'autonomie pour le financement de l'Union, des entreprises de l'Union, et donc, d'une certaine façon, d'une question de souveraineté, d'autant qu'il y a des enjeux de stabilité financière qui sont attachés à cette question.
Alors, beaucoup d'interrogations demeurent, on l'a dit, et pourtant on n'observe pas de panique chez les financiers londoniens. Est-ce que c'est lié au fait que pour l'heure, la City a finalement moins souffert du Brexit que ce qui était annoncé à Catherine Mathieu ?
Bien, surtout, pour l'heure, le Brexit n'a pas eu lieu. Mmh. Hein, le Royaume-Uni est toujours membre de l'Union européenne.
Mais les investisseurs pourraient se retirer en prévision ?
Et en fait, effectivement, on avait beaucoup dit avant le vote, avant le référendum de juin 2016, qu'en cas de souhait du peuple britannique de quitter l'Union européenne, il y aurait immédiatement une grande crise économique, une grande crise financière, que les investisseurs fuiraient pays. Et non, on n'a pas du tout constaté ça, parce que effectivement, en pratique, il a fallu déjà plusieurs mois avant que le gouvernement britannique dise officiellement « nous souhaitons sortir de l'Union européenne » en déclenchant le fameux article 50 du traité de l'Union européenne. Et puis ensuite, le gouvernement britannique a tout fait pour essayer de mettre en place des négociations qui permettraient aux Britanniques et aux Européens de continuer à échanger comme c'était le cas avant le vote. Et donc il y a cette stratégie qui est là depuis 2016 de la part du gouvernement britannique et qui est évidemment appuyée par les acteurs financiers, par la Banque d'Angleterre, qui souhaite aussi qu'on puisse continuer à échanger le plus facilement possible. En fait, le problème actuellement, me semble-t-il, est surtout sur le plan politique. C'est l'Union européenne qui a mis des conditions très dures à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et qui pose en fait la question de façon maintenant un petit peu difficile pour les acteurs financiers. Mais encore une fois, les Britanniques, eux, souhaitent pouvoir garder une grande liberté des échanges. Et toujours dans la déclaration de dimanche dernier, il est écrit que le Royaume-Uni et l'Union européenne continueront à faire tout ce qu'ils peuvent pour avoir une économie libérale, des marchés financiers qui fonctionnent de façon très libérale. Et donc, en fait, en principe, tout devrait pouvoir se dérouler assez bien pour les entreprises financières britanniques.
Les investissements n'ont pas reculé. Si on regarde, par exemple, les chiffres de la City of London Corporation, donc qui gouverne en quelque sorte la City de Londres, Londres a attiré 55 projets d'investissement étrangers directs dans les services financiers en 2017, contre par exemple 26 pour Paris ou 20 pour New York. Et par ailleurs, le secrétaire d'État au Trésor, John Glenn, a déclaré devant la Chambre des Lords qu'environ 5000 emplois devraient être perdus dans la finance londonienne d'ici au 29 mars. Donc ce n'est pas du tout le raz-de-marée redouté, finalement, Thierry Philipponin.
Comme le disait Catherine Mathieu il y a deux minutes, le Brexit n'a pas encore eu lieu. C'est quelque chose qui est vraiment très très important à prendre en compte. Et concrètement, pour ce qu'on appelle généralement l'industrie financière, de quoi parle-t-on ? Déjà, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme d'industrie financière ? En fait, on met une myriade de métiers très différents. Il y a le métier traditionnel du banquier qui prête de l'argent. Il y a le métier qui est de banquier qui est sur les marchés financiers, qui intervient sur les marchés financiers. Je rentre pas dans le détail, mais au sein même de ce métier, il y a 10 ou 50 variations. Il y a le métier d'assureur. Il y a le métier de gestionnaire de fonds. Bon, je m'arrête là, mais on voit que c'est très très différent. Le grand sujet des règles du jeu qui vont s'appliquer à la City et au reste de l'industrie financière européenne après Brexit, c'est de savoir comment tous ces métiers, et c'est pour ça que j'insistais, ou je mettais en exergue le fait qu'il y a beaucoup de passeports différents, ça reflète la multitude de métiers, comment tous ces métiers vont pouvoir continuer à opérer à travers la frontière qu'il y aura entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après le Brexit. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Après ça, il va y avoir des scénarios très différents selon que l'accord qui a été adopté par le Conseil européen est entériné par la Chambre des communes, ou pas. Parce que si c'est le cas, l'Union européenne et le Royaume-Uni vont avoir une période de presque 2 ans pour mettre en place, au niveau du détail, et il y a une myriade de détails à mettre en place, ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une relativement bonne continuité des services, ou de la possibilité d'offrir des services. Si c'est pas le cas, en 3 mois, il n'y aura pas le temps de le faire.
Stéphane Giordano.
Oui, il faut avoir en tête, effectivement, que d'une part, le Brexit n'a pas encore eu lieu, et d'autre part, même s'il a lieu le 29 mars, dans un cadre de rejet par le Parlement britannique de l'accord qui est proposé, donc dans les pires conditions du point de vue de la City of London, on va assister à des mouvements lents, mais des mouvements qui seront sans doute à terme assez profonds, de redistribution d'un certain nombre de métiers, de ressources en réalité, soit des ressources humaines ou des ressources capitalistiques, entre la place de Londres et l'Union ramenée à ses 27 autres membres. Si on prend l'exemple du droit, par exemple, aujourd'hui, le droit britannique est utilisé de manière quasi systématique pour les contrats financiers. Il présente des avantages multiples, dont l'extrême compétence des juridictions britanniques. Passé le Brexit, le Royaume-Uni perdra, de toute façon, le bénéfice de la reconnaissance automatique et immédiate des décisions de justice rendues par les cours britanniques. Ça veut dire que si je travaille avec un contrat de droit anglais entre deux entités de l'Union à 27 ou même entre une entité britannique et une entité de l'Union à 27 et qu'un jugement est rendu par une cour britannique, je vais devoir rentrer dans le mécanisme qu'on appelle de l'exéquature. Il va falloir que je fasse confirmer le jugement de la cour britannique par une cour de l'Union. Donc pourquoi, dans ce cas-là, ne pas utiliser directement un droit de l'Union ? Ce genre de choses-là, ça a des implications. Si j'utilise un droit de l'Union, est-ce que je vais vraiment là-dessus su utiliser des cabinets d'avocats situés à Londres. Probablement, j'irais plutôt voir des cabinets d'avocats au sein de l'Union. Donc, ce genre de déplacement, ça va prendre du temps, mais à mon sens, c'est assez irréversible.
Ça va prendre du temps, nous dites-vous. Alors, venons-en justement aux négociations entre la City et l'Union européenne. La City doit désormais négocier ce régime d'équivalence améliorée avec l'Union européenne. Écoutons Catherine McGuinness, qui est responsable de la politique de la City of London Corporation, chargée d'administrer la City, et Miles Selick, directeur général de The City UK. Il s'exprimait il y a quelques jours dans une interview pour le Financial Times.
La ville de Londres est la porte d'entrée du capital en Europe. Elle restera une grande place financière quoi qu'il arrive avec le Brexit. Je ne dis pas que nous n'allons pas perdre quelque part de marché à cause du Brexit. Bien sûr que cela va arriver et nous allons perdre des emplois également. On continue de penser qu'une reconnaissance mutuelle aurait été la meilleure solution, mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis et on sait que cela n'arrivera pas. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes avec le régime actuel de l'équivalence. Il est d'abord et avant tout politique. Il n'est pas permanent et chaque décision peut être annulée dans les 30 jours. Et il ne couvre qu'un tiers du secteur. Mais il faut bien commencer quelque part.
Tel qu'il est aujourd'hui, le Royaume-Uni est en train de quitter le marché unique. Donc le défi est maintenant de savoir comment aller de l'avant pour créer ce nouveau régime de l'équivalence. J'accepte que cela ne concerne qu'un point de cette déclaration politique, mais c'est parce qu'elle couvre l'entièreté des relations économiques. Et le point clé ici, c'est que c'est dedans. Donc nous pouvons construire quelque chose à partir de là. C'est une entrée pour ces négociations. Ça parle d'autonomie, d'une relation fermée, structurée et régulée entre l'Europe et le Royaume-Uni. Donc il y aura bien sûr des négociations, mais le fait est que nous sommes en train d'avancer, je pense, dans la même direction. Et c'est ce qui va permettre de créer, à l'intérieur de toutes les possibilités et limites que nous avons, la meilleure relation économique possible sur les deals financiers et services associés.
Alors, on l'a entendu, vous l'avez dit, Catherine Mathieu, la City n'a pas obtenu la reconnaissance mutuelle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots de quoi il s'agit et quel est ce régime d'équivalence qui est aujourd'hui demandé par la City et quelle chance enfin la City a d'obtenir gain de cause ?
Alors aujourd'hui, donc, comme le Royaume-Uni fait partie de l'Union européenne, il y a ces fameux passeports entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne si effectivement les passeports ne sont plus là, ce qui semble maintenant être décidé. Le souhait du gouvernement britannique, c'était de mettre en place un système de reconnaissance mutuelle où en fait chacune des autorités, en particulier des autorités juridiques et financières britanniques et de l'Union européenne, reconnaissait mutuellement l'activité de l'autre partie. Mmh. Et donc, en fait, ça aurait été très proche du maintien d'un passeport financier. Mais ça, l'Union européenne à 27 n'a pas souhaité cette forme facile de reconnaissance mutuelle, facile en termes d'échange. Et donc, en fait, la deuxième phase de négociation par le gouvernement britannique a été de dire, eh bien, dans ce cas-là, essayons d'avoir des équivalences renforcées. Mais là, actuellement, on parle beaucoup, on a le mot, mais on n'a pas derrière ce qu'il y aura véritablement derrière ce mot d'équivalence, à quel point, et c'est vraiment une négociation très politique, me semble-t-il, qui se joue là, le gouvernement britannique obtiendra de l'Union européenne le fait que les échanges puissent continuer à se faire facilement. Parce que, tout à l'heure, il était dit au début de l'émission que, en fait, tout le monde serait perdant-perdant dans le cadre du Brexit. Mais il me semble qu'en termes financiers, ça n'est pas tout à fait l'objectif des pays de l'Union européenne à 27, et en particulier parmi les grandes capitales, où en fait on espère justement qu'avec ce Brexit, une partie des activités qui sont aujourd'hui menées à la City, par exemple celles des chambres de compensation en euros, seront rapatriées à Paris. Mmh. On espère qu'elles seront rapatriées à Paris, à Francfort, qu'elles seront rapatriées à Francfort. Et il y a une concurrence qui s'est mise en place à l'intérieur des capitales de l'Union européenne à 27, justement pour récupérer cette activité qui est faite depuis des années par les Britanniques. Donc il y a un enjeu très fort.
Vous évoquez les chambres de compensation, Catherine Mathieu, c'est en effet un des enjeux centrales. C'est une activité phare de la City. Toute la question, c'est effectivement, est-ce qu'elles seront rapatriées sur le continent? Et d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler Thierry Philippola, à quoi servent ces chambres?
Une chambre de compensation, c'est un endroit, j'ai envie de dire, où se rejoignent les flux financiers après que une transaction financière ait été réalisée, afin que cette réalisation arrive à sa bonne fin. C'est une chose que vous me disiez, je vous ai vendu tel instrument et moi je vous dis, je vous l'ai acheté. Encore faut-il que vous me livriez ce que vous m'avez vendu et moi je paye ce que je suis censé payer. La chambre de compensation, c'est l'endroit où cet acte de va se réaliser.
Ce qui explique qu'elles se sont renforcées après la crise.
Alors, ce qui explique qu'elles se sont renforcées, c'est que pour une catégorie d'actifs qui est particulièrement importante, qui est les actifs dits de produits dérivés, un produit dérivé, c'est l'engagement de réaliser, j'ai presque envie de dire quelque chose, pour rester très général, selon certaines conditions, pendant un certain temps. Et vous voyez que ce que je viens de dire, c'est que c'est un engagement dans le temps. Et évidemment, par rapport à l'objectif d'une chambre de compensation, plus il va y avoir un engagement dans le temps, plus il va être important que quelqu'un se porte garant de la bonne fin de cette, de cette opération. Et la chambre de compensation, ça réalise cette, cette fonction. Ce qui est important de voir, c'est que aujourd'hui, les produits dérivés libellés en euros représentent, alors ça fluctue selon les volumes de marché, mais les encours, dans le jargon financier, on dit notionnel, c'est-à-dire les encours sous-jacents, les encours que ça représente, représentent en tout état de cause plusieurs dizaines de milliers de milliards d'euros. À un moment, c'était jusqu'à 80 000 milliards d'euros, d'accord, ce qui représente plusieurs fois le PIB de la zone euro.
C'est pour ça que la Banque Centrale Européenne veut reprendre le contrôle des chambres de compensation.
Et donc là, on a un débat qui est important et qui n'est pas simple. Personne ne peut dire qu'il est simple, parce que les acteurs financiers, et je pense que Stéphane Giordano pourra en parler fort bien, disent qu'il est beaucoup plus efficace d'avoir une compensation au même endroit, parce que en fait, les flux et les positions se compensent, donc ça donne de l'efficacité et ça coûte moins cher. Donc du point de vue d'un acteur financier, c'est juste plus efficace. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une concentration à 80%, que sais-je, voire 90% à Londres de ces produits, même en euros. Du point de vue des régulateurs, banque centrale ou des superviseurs en général, l'angle est totalement différent. Consiste à dire, oui, mais s'il y a un problème, il est peu probable qu'il y ait un problème, il peut toujours y avoir un problème, ça va être à nous de jouer les pompiers. Donc les régulateurs disent...
Et ce serait rendu plus difficile par une dispersion de ces activités.
Dispersion, et surtout si ces activités sont concentrées en dehors de la zone euro et en dehors de l'Union européenne, la possibilité d'intervenir d'abord en amont pour contrôler, superviser ce qui se passe, pour s'assurer que la probabilité d'accident soit la plus faible possible, ce qui est quand même un gros sujet. Les superviseurs au quotidien vont regarder ce qui se passe pour être sûr qu'il n'y a pas un incendie qui est en train de couver. C'est une chose. Et la deuxième chose, si jamais il y a un accident, il faut pouvoir intervenir. Il faut pouvoir intervenir dans sa devise. Donc là, on est typiquement, nous sommes dans une émission d'économie, donc je vais lâcher un mot économique, dans ce qu'on appelle de l'aléa moral. C'est-à-dire que les bénéfices et les coûts potentiels ne sont pas du même côté. C'est-à-dire que si la compensation des produits en euros reste au Royaume-Uni, eh bien le bénéfice du business au quotidien ira au Royaume-Uni, mais le jour où il y aurait, vous aurez remarqué que j'ai parlé au conditionnel, il n'y a pas qu'il y aura, mais le jour où il y aurait un problème, ça serait pour la zone euro. Donc les régulateurs disent, si je dois avoir le coût le jour où il y aurait un problème, je veux aussi avoir l'activité sous ma main pour la contrôler et puis en avoir aussi le bénéfice, entre guillemets, en temps de paix.
Et donc ces chambres de compensation, Stéphane Giordano, elles pourraient être dispersées et ne plus être concentrées comme c'est le cas actuellement à Londres. Et alors, avec quelles conséquences économiques selon vous ?
Alors, il y a des conséquences multiples, mais comme l'a dit Thierry, l'un des sujets, c'est que la pente naturelle de la compensation, c'est que la compensation est plus efficace si, en temps de paix, hein, comme il a été dit, c'est-à-dire quand tout va bien, la compensation est beaucoup plus efficace quand elle est pour un produit donné assuré par un acteur unique. Et là, tout de suite, on se rend compte que on se met à parler de monopole ou de monopole de fait, mais de droit privé. Donc, ça soulève évidemment énormément de questions. Aujourd'hui, le fait est que si on prend l'un des produits les plus sensibles, donc les swaps en euros, ils sont clearés aujourd'hui par une entité de LCH Limited, donc à Londres. C'est 95% du marché à peu près qui est clearé là-bas.
Clearé, c'est passé par une chambre de compensation.
Pardon, qui est compensé à Londres par cette entité Swap Clear. Il y a peu d'alternatives aujourd'hui crédibles. Il y en a une à Francfort chez Eurex. Si on voulait basculer rapidement les flux de Londres vers l'Union européenne, ça poserait quand même des problèmes opérationnels assez sérieux. D'abord, est-ce que une entité qui aujourd'hui est un challenger avec une très faible part de marché, est-ce que cette entité peut rapidement monter en puissance et accueillir tous les flux des entités de l'Union, c'est une question ouverte. Et puis d'autre part, il y a toute la question du stock des transactions qui aujourd'hui reste géré à Londres. C'est des centaines de milliards d'euros de notionnels. C'est 1 million de transactions ouvertes pour des entités de l'Union dans les livres de SwapClear. Il est évident que si on voulait déplacer ces transactions-là, ça serait un processus long, coûteux, et si on voulait le faire brutalement, les conséquences pourraient être systémiques pour les marchés.
Et puis il y a une autre pratique qui est questionnée, c'est la délégation de gestion. Donc c'est cette pratique qui permet de gérer depuis Londres des fonds domiciliés dans d'autres pays d'Europe. Et la question qui se posait, Catherine Mathieu, c'est est-ce que les règles de cette pratique devraient être durcies et pour quelles raisons? Il y a eu beaucoup de discussions autour de cette question.
Il y a une grande question de façon générale. Est-ce qu'on considère qu'on a envie de reconstruire à l'intérieur de l'Union européenne à 27 une réglementation cohérente, harmonisée entre tous les pays de l'Union européenne à 27? Ou effectivement, est-ce qu'on permet aux entités de continuer à avoir une activité très importante sur la place de Londres, ce qui serait un modèle plus libéral? Et là, on voit bien que Londres a de nombreux atouts. Hein. Historiquement, c'est vraiment la grande place financière. C'est là qu'on est prêt à développer de nombreux produits et on est très très ouvert sur le monde. Donc il y a des choix qui sont importants à faire, je pense, en tout cas du point de vue de l'Union européenne.
Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Broken English de Marianne Faithfull. Nous sommes toujours avec Catherine Mathieu, Thierry Filippona et Stéphane Giordano pour parler des conséquences du Brexit sur la finance européenne. Et alors, que se passera-t-il pour la City si le Parlement britannique ne valide pas l'accord le 11 décembre prochain? Que se passera-t-il donc en cas de no deal? Est-ce qu'il faudrait redouter, dans ce cas, une déréglementation des services financiers britanniques? C'est une question qu'on a pu entendre se poser, Thierry Filippona.
C'est une question qu'on a souvent posée. Je pense pas que ça se pose dans ces termes. Déjà, écoutons les principaux intéressés, c'est-à-dire les régulateurs britanniques. qui disent clairement que c'est pas le sujet. Alors, il peut y avoir le souhait de tel ou tel de le faire, mais les régulateurs britanniques disent clairement que c'est pas le cas.
Parce que le cadre réglementaire de la City va être à réinventer, en tout cas.
Aujourd'hui, il est rigoureusement le même. Et d'ailleurs, le régulateur britannique a sorti un papier de 24 pages hier matin, qui est très 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 intéressant à lire, où il analyse la possibilité qu'il n'y ait pas de deal, donc sorti en catastrophe le 29 mars, qu'il y ait une période de transition si le Parlement britannique le ratifie. Mais dans les deux cas, il dit, on n'est pas en mode ni déréglementation sauvage, ni crash. Après ça, clairement, le régulateur britannique dit, donnez-nous une période de transition, parce qu'il y a tellement de détails à discuter et à régler que s'il n'y a pas cette période de transition, ça va être difficile. Il envoie clairement le message qui dit, s'il n'y a pas cette période de transition, ça va être difficile, mais ça ne veut pas dire que tout s'effondre. Il ne faut pas raisonner comme ça. Donc ça, c'est quelque chose d'important. L'autre chose, c'est que, et là, toujours dans ce papier, il y a des choses qui sont absolument truculentes. Par exemple, il est dit, ce sont les Britanniques qui le disent, hein, qu'il y a des réglementations actuellement en cours d'élaboration au niveau de l'Union européenne qui seraient bénéfiques pour la City de Londres. Et ils ont un problème. En tant que régulateur, ils se disent, c'est vraiment très dommage si on sort en catastrophe le 29 mars, parce que ces régulations européennes, ce sont les Britanniques qui le disent, ne vont pas pouvoir bénéficier à notre marché. Ce qui est quand même assez amusant. Donc, ils se posent la question, comment est-ce qu'on va pouvoir adopter quelque chose d'équivalent? Donc, on voit bien qu'on n'est pas dans une logique de déréglementation massive. Après ça, il y a de la concurrence bien comprise entre places, qui existe dès aujourd'hui, hein, faut pas se faire d'illusions.
Ça peut entraîner un moins-disant réglementaire.
Mais le moins-disant réglementaire, c'est une tendance naturelle d'un marché financier global. Aujourd'hui, mais partout de par le monde, il y a déjà une concurrence réglementaire.
Mais là, il y a un enjeu de beaucoup d'activités financières à récupérer.
Il y a toujours une pression, mais qui est normale. Le but n'est pas de dire, ah, c'est diaboliser quoi que ce soit. Il y a une pression normale sur les régulateurs pour dire, si vous mettez une réglementation plus contraignante sur ceci, je vais aller faire mon business ailleurs. Dès aujourd'hui, c'est quelque chose que les régulateurs voient. A fortiori, dans une Union européenne en relation avec le Royaume-Uni après le Brexit, il y aura ça. Et c'est bien pour ça que les discussions vont être serrées. Et c'est bien pour ça qu'au-delà des grands principes dans l'accord de fort récent qui vient d'être entériné, il y a des principes de bonne foi, de bonne volonté des parties travailler ensemble. Très bien, c'est la base. Si on n'a pas la bonne foi et la bonne volonté, on fait rien. Mais après ça, le détail à négocier, c'est une autre affaire, et derrière une grande déclaration de ce type, il peut y avoir une volonté de gagner le business du concurrent par un détail technique que les politiques ne verront pas tellement ces techniques, mais qui aura un impact considérable.
Stéphane Giordano, qu'est-ce que le Brexit pourrait changer à la réglementation financière, donc du côté de Londres d'une part et du côté de l'Union européenne de l'autre?
Alors, à court terme, il peut y avoir quelques divergences entre les deux cadres réglementaires. Il faut avoir en tête, et c'est assez savoureux si on se rappelle que les Britanniques se considèrent, et souvent à raison, hein, comme la racine du droit en matière financière, que si la période de transition est activée, pendant toute la période de transition, les Britanniques devront appliquer les évolutions du droit européen, y compris en matière financière, mais sans participer, à partir du 29 mars, à la négociation de ces changements du droit européen. Bon, à plus long terme, on pourrait craindre que le Royaume-Uni se lance effectivement dans une stratégie d'attractivité par le moins-disant réglementaire. Mais en réalité, c'est peu probable. C'est peu probable parce qu'il y a des forces de rappel quand même assez puissantes, sont les instances européennes, le comité de Bâle, l'OICV en matière financière, donc l'Organisation internationale des commissions de valeur, qui font que on voit pas nécessairement le Royaume-Uni ailleurs que dans des domaines très techniques essayer de pousser très loin un avantage compétitif par la déréglementation et l'idée d'une singapourisation par exemple par une agressivité fiscale
ça vous paraît crédible.
Assez peu probable. Vous vous transformez pas en Singapour quand vous avez 60 millions de citoyens.
À l'inverse, pour l'économiste Gaël Giraud, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne serait une mauvaise nouvelle pour la régulation financière en Europe, car ce qu'il dit, c'est que les Britanniques seraient finalement plus partisans de la réglementation que les Français, et cela en raison, selon lui, de la faillite de plusieurs banques britanniques en 2008. Qu'en pensez-vous, Catherine Mathieu? Ça pourrait être une mauvaise nouvelle sur ce point?
Bah oui, je suis assez d'accord avec cela. C'est vrai qu'on voit que depuis la crise financière de 2008, les Britanniques, la Banque d'Angleterre en particulier, a fait énormément pour essayer de remettre en place un cadre réglementaire. Et je dirais, moi, ce qui m'inquiète surtout, enfin, d'une certaine mesure dans la configuration actuelle, c'est qu'effectivement, à l'intérieur de l'Union européenne, on s'engage dans des stratégies de déréglementation pour attirer les activités qui sont actuellement à la City. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a un risque que finalement les Britanniques aujourd'hui soient davantage pour une finance régulée, que certains pays européens qui se disent, eh bien, maintenant, essayons d'attirer cette finance qui partira de Londres. Et donc, j'ai un peu peur qu'on aille vers une course à la déréglementation à l'intérieur de l'Europe, et y compris à l'intérieur de l'Union européenne.
Parce que les Britanniques, par exemple, sont allés plus loin que les Français sur la question de la séparation entre banques d'investissement et banques de dépôt. Finalement, les Britanniques seraient, enfin les Français et les Allemands seraient sur cette course au moins-disant réglementaire par rapport aux Britanniques. Stéphane Giordano.
Alors juste sur la question de la séparation des banques, il faut quand même se rappeler précisément que ce sont des acteurs spécialisés britanniques qui ont fait faillite et que les acteurs banque universelle en France ont montré une stabilité et une résilience exemplaires. Donc la séparation pourrait ne pas être la bonne solution à ce genre de problème-là et peut-être plus une source du mal qu'un remède.
Thierry Philipponin.
Alors, deux points. Alors, c'est amusant sur cette question de la concurrence réglementaire entre zones, parce qu'on part de... Même votre question initiale, c'était est-ce que les Britanniques vont pas déréglementer pour attirer le business? Et puis on arrive à la conclusion, ah, en fait, ça serait pas l'inverse par hasard. Je pense que globalement, pour connaître un peu le jeu réglementaire de l'intérieur, il va y avoir une myriade de petits détails à régler, mais c'est pas vraiment un sujet. Je pense vraiment que c'est pas un sujet. Je vois pas une zone faire concurrence à l'autre sur la base réglementaire de façon massive. Franchement, bon, l'avenir tranchera, mais je pense pas que ça soit un sujet. Sur la question de la séparation, bon, c'est les gens qui suivent le débat de près s'étonneront pas forcément que j'ai un point de vue qui ne converge pas forcément avec celui de Stéphane Giordano. Je pense que la problématique est plus large que celle-là. En tout cas, il y a d'autres dimensions, même ce que Stéphane Giordano vient de dire est parfaitement exact. Les banques universelles françaises n'ont pas eu d'accident pendant la crise. Après ça, il y a d'autres dimensions, d'autres problématiques. Et c'est un fait que les Britanniques ont adopté une réglementation dite dans le jargon de ring fencing, donc de séparation douce, pour le dire de façon très générale, de leur banque de détail, que n'a pas fait l'Union européenne.
Alors maintenant, venons-en à ces stratégies, peut-être des places financières européennes pour attirer un certain nombre d'activités. Quels sont aujourd'hui les critères de choix d'un nouveau lieu d'implantation, Stéphane Giordano, et quelles sont les différentes stratégies, et plus spécifiquement la stratégie de Paris?
Alors, il y a eu un effort effectivement d'attractivité de la part de la plupart des places financières depuis de l'Union à 27 depuis le Brexit, depuis l'annonce en fait du Brexit. Les deux places qui semblent le plus en mesure de tirer parti d'une relocalisation d'acteurs aujourd'hui britanniques sont Francfort et Paris. Dans une moindre mesure, d'autres places, Luxembourg, Dublin, Amsterdam, le Portugal pour certaines activités typiquement.
Sachant que chaque capitale a ses spécificités.
Chaque capitale
et peut attirer des activités différentes.
Et on pourrait assister en réalité à une forme de création d'un modèle un peu multinodal, multilocal au sein de l'Union, avec un peu une spécialisation des différentes places. Peut-être le Luxembourg sur les activités de gestion, le Portugal que je mentionnais tout à l'heure sur des activités de middle office, la France sur certaines activités de marché, Francfort sur des activités plus strictement bancaires. La France dispose à cet égard d'un certain nombre d'atouts.
Le fait que Paris soit choisi plutôt que Francfort ou Dublin pour accueillir l'autorité bancaire européenne, ça a été un signal fort.
Alors ça a été un signal fort, même s'il faut reconnaître qu'à la fin il y a eu un peu de chance parce que ça s'est quand même joué à la fin sur un tirage au sort. Hein. Mais effectivement c'était un signal extrêmement puissant. Et puis il y a des vrais facteurs structurels de Paris face à Francfort, dont quand même la taille de la ville, le réseau d'éducation pour les enfants des gens qui viendraient s'installer, la capacité du conjoint à trouver un emploi dans un bassin d'habitants de plus de 12 millions d'habitants versus Francfort qui est quand même un bassin beaucoup plus réduit. Donc et puis il y a eu aussi un effort qu'il faut saluer, et d'autant plus qu'il a été en la matière complètement transpartisan, de correction d'un certain nombre de biais pour rendre la place de Paris davantage attractive sur des aspects réglementaires, sur certains aspects fiscaux, notamment en matière de fiscalité des investissements, etc.
Donc le Brexit pourrait mettre un coup d'arrêt, Catherine Mathieu, à la concentration financière londonienne et l'inquiétude que pouvait avoir l'Union européenne sur une éventuelle difficulté d'accès à des services financiers pour les 27, ce n'est plus vraiment d'actualité. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va pouvoir accéder à ces services financiers sans trop d'inquiétude.
Oui, je pense qu'on peut dire ça aujourd'hui. Hein. C'est vraiment d'ailleurs, et c'est du côté de l'Union européenne, effectivement, qu'on mettra les barrières avec des échanges vers le Royaume-Uni, ça ne viendra pas du Royaume-Uni. Donc en fait, l'Union européenne a aujourd'hui toutes les cartes en main pour pouvoir à la fois développer des activités financières à l'intérieur de l'Union européenne à 27 et puis garder des liens forts avec le Royaume-Uni.
Est-ce que la City va pouvoir compter sur Theresa May pour la défendre, entre guillemets? On a beaucoup entendu qu'il y avait chez Theresa May un désintérêt prononcé pour les milieux financiers, contrairement à ses prédécesseurs.
Peut-être, mais en tout cas, je crois que Theresa May nous a montré au cours de ces deux années de négociations qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour bien avancer dans le cadre des négociations en faveur de l'intérêt des Britanniques. Et ça a été le cas aussi pour la City. Et je pense qu'elle gardera cet objectif. Après, l'autre question, c'est jusqu'à quand Theresa May sera-t-elle Première ministre? Parce que si l'accord qui a été adopté la semaine dernière par le Conseil européen n'est pas accepté par le Parlement de Londres le 11 décembre prochain, là aussi, il peut se passer beaucoup de choses, y compris une démission de Theresa May, et on a du mal à voir aujourd'hui qui la remplacerait. Tout serait ouvert à nouveau.
En tout cas, il y a eu pour le moment peu de délocalisation effective. C'est ce qu'on a constaté, c'est ce qu'on commençait à se dire tout à l'heure. Thierry Philipponin, par rapport à cette position de Theresa May.
Oui, par rapport à cette position de Theresa May, je pense qu'il faut aussi le mettre dans le contexte de ce qu'elle peut effectivement faire. C'est une chose d'avoir une volonté dans un certain sens, c'est autre chose de le faire effectivement. Je pense que sur la question financière, le contexte technique et les contraintes techniques sont telles que la réalité de ce qu'elle peut faire pour améliorer la position de la City est en fait extrêmement limitée. D'autant plus qu'on parle souvent de négociation, mais de la même façon que l'article 50 ayant été déclenché, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une négociation? Parce qu'il y a la pendule qui tourne, et puis quand l'heure est finie, bah de toute façon, si on n'est pas d'accord, c'est moi qui gagne. Donc là, les Européens avaient clairement la main. Avec le backstop qui est proposé, qui, on va faire très très bref, est certainement la moins mauvaise solution, c'est pas une bonne solution, mais c'est la moins mauvaise pour le Royaume-Uni, il y a quand même, et là on va revenir aux services financiers, la logique de, ok, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le filet de sécurité s'il n'y a pas d'accord d'ici l'été 2020? Eh bien, en gros, pour faire très très bref, ça sera une union douanière entre le Royaume-Uni entier, y compris l'Irlande du Nord, avec des nuances pour l'Irlande du Nord, et l'Union européenne. Mais une union douanière, ça parle de l'échange des biens, pas l'échange de services. Donc, autrement dit, si ce filet de sécurité entre en œuvre, les services, et donc les services financiers, ne seront pas pris en compte. Donc,
c'est ce que Theresa May avait demandé en juillet, d'ailleurs, voilà. De rester sur les réglementations européennes pour les biens, mais pas pour les services.
Voilà, mais donc le backstop dont on a beaucoup parlé et qu'il s'agit maintenant d'entériner, ne couvrira pas les services financiers. Donc, on revient aux problématiques qu'on a évoquées depuis le début de cette émission, qui sont bien techniques, et Theresa May a de facto très très peu de leviers sur ces questions.
Enfin, je dirais quand même Catherine technique Mathieu. Et politique, encore une fois, parce qu'effectivement, la négociation sur les services doit se faire avant juillet 2020, dans les accords qui ont été signés jusqu'à présent. Et donc, effectivement, là, il va y avoir vraiment une partie de bras de fer entre le Royaume-Uni et les autres pays de l'Union européenne pour se mettre d'accord sur un certain nombre de points. Sur la question des services financiers, les Britanniques ont beaucoup à perdre, effectivement, par rapport à l'Union européenne. Dans d'autres domaines qui ont moins de poids sur le plan économique, ils ont un pouvoir pour l'instant de négociation, par exemple en ce qui concerne l'accès des zones de pêche.
Vous avez raison. Vous avez raison. Mais en ce qui concerne les services financiers, clairement, les Européens ont la main.
Bien sûr.
Parce que si en juillet 2020 il n'y a pas eu d'accord, eh bien ce qui s'applique, c'est quelque chose qui n'inclut pas les services financiers. Donc ils ont clairement la main en ce qui concerne les services financiers.
Et donc sur ces délocalisations qui pourraient intervenir et qui seront peut-être plus massives dans les prochains mois ou les prochaines années, tout va dépendre en réalité du degré de coordination entre les régulateurs nationaux européens. Stéphane Giordano.
Oui, et puis avec le Royaume-Uni. Mais pour revenir sur cette question de la négociation sur les services financiers, il faut se rappeler que il y a un double enjeu qui est quand même massif pour les instances de l'Union européenne. Il y a un véritable enjeu qui porte spécifiquement sur les chambres de compensation, mais qui va au-delà de stabilité et de risques systémiques. Or ça, je ne vois pas les institutions européennes prêtes à lâcher du lest là-dessus, d'autant qu'il y a une mémoire assez cuisante de ce qui s'est passé en 2011 et de la façon dont les chambres britanniques, en réalité, à ce moment-là, ont appliqué des haircuts, c'est-à-dire une dévalorisation de certaines dettes d'État de la zone euro, qui était apportée en garantie par les acteurs.
Donc,
et puis la deuxième chose, c'est que il y a vraiment cette question de comment est-ce que on finance demain les économies de l'Union à 27 et quel est le niveau d'autonomie dont doit disposer l'Union à 27 par rapport à un centre financier qui lui sera désormais extérieur.
Merci beaucoup Catherine Mathieu, Thierry Philippona et Stéphane Giordano d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je précise Catherine Mathieu que vous venez de publier un article sur le blog de l'OFCE intitulé Brexit, l'accord du 25 novembre.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Il est 14h45 sur France Culture, prenons le chemin de la bibliothèque idéale de l'écho. À mon âge et jusqu'à ma mort, je resterai fidèle à l'idée que les économistes peuvent influencer l'emploi. Voilà ce que déclarait le mathématicien et économiste Edmond Malinvaux. Il est l'auteur du nouveau livre qui rejoint notre bibliothèque, Théorie macroéconomique, publié en 1981. Et c'est Henri Sterdignac qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, directeur du département économie de la mondialisation de l'OFCE et professeur associé à l'université Paris-Dauphine. Alors d'abord, pouvez-vous nous présenter Edmond Malinvaux, qui est mort il y a seulement 3 ans, à l'âge de 91 ans?
Eh bien, Edmond Malinvaux est né en 1923. Ensuite, il a fait des études, d'abord l'école polytechnique, puis l'ENSAE, l'École nationale supérieure de l'administration économique. Il est parti faire des recherches universitaires aux États-Unis. Il est revenu en France. Pendant de longues années, il a dirigé l'ENSAE. Donc, il a formé une grande partie des économistes français. Et puis ensuite, il est devenu directeur de la prévision, directeur de l'INSEE. Et puis, il a terminé sa carrière, si on peut dire, comme professeur au Collège de France.
Sa fibre sociale, née dès son plus jeune âge, il est alors frappé par les graves difficultés que traversent les industries de la porcelaine et de la chaussure de Limoges, sa ville natale après la crise des années 30. C'est un économiste qui prend en compte cette question sociale.
Disons que après la guerre, l'ensemble des économistes étaient persuadés qu'ils avaient un rôle à jouer pour aider les pouvoirs publics à maintenir une croissance élevée et le plein emploi. Et donc Edmond Malinvaux a participé à cette idée que effectivement en donnant des beaux conseils au gouvernement, eh ben on va être capable de maintenir le plein emploi.
Et il est l'inspirateur de l'école du déséquilibre qui va naître en France dans les années 70. En quoi consiste cette école, Henri Sterdignac?
Eh bien, vous savez que, d'une part, Malinvaux est le continuateur, si on peut dire, de l'école keynésienne. c'est-à-dire l'idée que spontanément, on n'a pas plein emploi, qu'il y a des fluctuations économiques qui sont dues aux chocs, qui sont dues aux variations d'anticipation des entrepreneurs. Donc, on a besoin d'une politique économique stabilisatrice et la flexibilité des prix et des salaires ne suffit pas à maintenir le plein emploi. Et à partir de cette idée que la flexibilité des prix et des salaires ne suffit pas à maintenir le plein emploi, et même que dans certains cas, elle peut être dangereuse, puisque si en période de chômage, ça fait pression sur les salaires baissent, et du coup, la consommation baisse, et ça fait encore chuter la production, l'idée, c'est de faire une théorie de l'économie lorsque les prix et les salaires sont rigides. Et donc, c'est ce que Malinvaux, avec d'autres, a fait. C'est ce qu'on a appelé la théorie du déséquilibre. Et dans la théorie du déséquilibre, Malinvaux a montré qu'il pouvait y avoir plusieurs situations économiques, macroéconomiques. La situation la plus fréquente, c'est celle du chômage keynésien. Les entreprises ne produisent pas assez parce que elles n'ont pas de débouchés et du coup, ça crée du chômage. Il peut y avoir d'autres situations comme le chômage classique où les entreprises ne produisent pas parce qu'elles n'ont pas le stock de capital nécessaire ou des situations comme celles qu'on a connues entre 68 et 73 en France, il y a très longtemps, où on est en suremploi. Et donc, la théorie du déséquilibre, elle fait une typologie des situations macroéconomiques.
Alors justement, venons-en à ce livre, Théorie macroéconomique au singulier, publié en 1981, un ouvrage magistral selon le démographe Alfred Sauvy. Pourquoi avoir choisi cet essai en deux tomes, Henri Sterdignac, plutôt que La croissance française ou les essais sur la théorie du chômage qui sont plus connus ?
Parce que cet ouvrage est un manuel, si on peut dire, dans lequel Malinvaux explique l'équilibre macroéconomique, c'est-à-dire pourquoi effectivement on n'atteint pas le plein emploi en permanence et pourquoi une politique économique est en permanence nécessaire et quel est le type de politique économique qu'il faut faire. Donc, c'est un ouvrage qui, en fait, a circulé sous forme miméo à partir des années 70.
Sous forme miméo ?
Sous forme de, oui, sous forme de manuel. Que ce soit à l'ENSAE, à l'École des Mines ou au Centre d'études des programmes économiques, qui a été publié en 1981 et qui, de ce fait, peut être considéré comme un ouvrage typique de la pensée macroéconomique keynésienne.
Dans le tome 1, Edmond Malinvaux rejette l'idée selon laquelle l'inflation irait de pair avec la croissance.
Eh bien, justement, on peut osciller entre plusieurs types de politiques économiques, suivant la conjoncture. Dans certaines situations, le grand problème, c'est le manque de demande. Et donc, il faut baisser les taux d'intérêt, tant que c'est possible. Il faut faire de la politique budgétaire expansionniste, parce que, effectivement, c'est nécessaire pour augmenter la croissance. Il n'y a pas d'impact défavorable, puisque, justement, il y a la main-d'œuvre disponible pour travailler. Et dans d'autres situations économiques, le problème, c'est que les entreprises n'ont pas assez de capital. Et donc, dans ce cas-là, il faut, au contraire, augmenter le profit des entreprises pour les inciter à constituer le capital nécessaire. Et dans ces conditions, il ne faut pas, naturellement, relancer la demande de consommation qui nuirait à l'investissement. Et puis, si on est en situation de plein emploi, naturellement, la question ne se pose pas, il ne faut pas relancer. Et l'intérêt de la problématique de Malinvaux, c'est de bien distinguer les situations et de bien dire, ben voilà, ce n'est pas la même politique qu'il faut faire dans chacune de ces conjonctures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend des fois des discours saugrenus, du genre, attention, les déficits publics, ça va relancer l'inflation. Mais si les déficits publics sont nécessaires pour soutenir l'activité en période de sous-emploi, naturellement, ça ne va pas relancer l'inflation.
Le chômage classique et le chômage keynésien peuvent coexister. Quelle politique économique est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans ce cas ?
C'est un des problèmes de l'approche, disant, qui a été ensuite complété, disant bah, il peut y avoir des secteurs en situation classique, il peut y avoir des situations, des secteurs en chômage keynésien. Dans ce cas-là, on a un arbitrage. Lorsqu'on va relancer, on risque de relancer l'inflation dans certains secteurs, mais c'est nécessaire pour d'autres. Et donc, c'est toute la subtilité de la politique économique et le rôle des conseillers du prince de dire, ben voilà, compte tenu de la situation, ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire.
Plus largement, en quoi la théorie du chômage de Malin Vaux apporte aujourd'hui des éclairages sur les réponses à apporter au chômage qui touche 9% des actifs en France, ce qui correspond à environ 2,73 millions de personnes. Henri Sterdignac.
Ben, je peux vous faire deux réponses contrastées. La première, c'est que, bien sûr, on constate aujourd'hui qu'on est en situation de chômage keynésien. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent un emploi et qui n'en trouvent pas. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont contraintes par le manque de demande. Et donc, la grande contrainte, c'est la contrainte de déficience de la demande. Maintenant, on peut se poser la question, quels sont les points qui sont plus ou moins périmés dans l'ouvrage de Malin Vaux, dans l'analyse de Malin Vaux. Et à ce moment-là, on est amené à dire, l'ouvrage date des années 70-80, et Malin Vaux n'avait pas vu les conséquences de la financiarisation qui font que les entreprises veulent de plus en plus de profits, alors qu'elles ont besoin en réalité... Elles n'ont pas besoin d'investir plus, et donc automatiquement, ça crée un déséquilibre, parce que les profits excessifs que demandent les entreprises, ben, ça pèse sur les salaires et donc sur la consommation. Il y a un déséquilibre structurel, on peut dire, dans nos économies, qui fait que ben, il y a un manque structurel de demande. Hein, et on voit que dans tous les grands pays actuellement, on est obligé de pratiquer des taux d'intérêt très bas et d'avoir des déficits publics importants. Hein, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Grande-Bretagne. On a des taux d'intérêt qui sont très bas par rapport au taux de croissance et on a des déficits publics élevés parce que, disons, le capital l'a emporté par rapport au travail. Et l'autre grand défaut que Malin Vaux n'avait pas vu, c'est les conséquences de la globalisation, de la mondialisation commerciale. Qui fait que maintenant, on a besoin de stratégies coordonnées à l'échelle mondiale, qu'on a des pays comme l'Allemagne qui basent leur croissance non pas sur la demande intérieure, mais sur la demande extérieure et qui, du coup, font une pression insupportable sur les autres. Et puis, Malin Vaux sous-estimait sans doute l'instabilité induite par le développement de la finance. Au temps de Malin Vaux... Les grands chocs ont été des chocs réels, les guerres, guerre de Corée, guerre du Vietnam, la hausse du prix du pétrole. Et puis depuis, ben les grands chocs, c'est des chocs financiers. Hein. On est dans un monde où, en permanence, on a des bulles financières. Et ces bulles financières, lorsqu'elles éclatent, eh ben, ça se traduit par des chocs sur la demande.
Vous aussi, Henri Sterdignac, vous restez fidèle à l'idée que les économistes peuvent influencer l'emploi, pour reprendre les mots d'Edmond Malin Vaux.
Eh bien, Edmond Malin Vaux, toute sa vie, a été ce qu'on appelle un haut fonctionnaire. Et le haut fonctionnaire, il pense que l'État est au service de la collectivité. Et donc, en conseillant le prince va forcément faire la bonne politique. Aujourd'hui, ben, on est peut-être moins naïf. On sait que l'État, c'est aussi au service des grandes puissances, de l'argent, de l'industrie. Et que... L'État, le gouvernement, les hauts fonctionnaires font pas toujours la politique qui serait nécessaire au niveau du bien commun et que souvent, ils font plutôt une politique au service des classes dominantes. Donc, ce que nous dit Malin Vaux, c'est plutôt ce qui devrait être plutôt que ce qui est effectivement réalisé dans la pratique actuelle de la politique économique.
Cet ouvrage d'Edmond Malin Vaux, c'est un manuel d'enseignement de la macroéconomie que vous recommanderiez à des étudiants. Et si oui, pourquoi? Pourquoi faut-il lire aujourd'hui théorie macroéconomique d'Edmond Malin Vaux?
Il faut lire aujourd'hui cet ouvrage. D'abord, Edmond Malin Vaux est un modèle, si on peut dire, du point de vue de la méthode. C'est-à-dire, la méthode, ça consiste à dire, il faut partir des faits, il faut partir des données. Il faut essayer de les expliquer de manière la plus simple possible. Malin Vaux se méfiait toujours des théories trop simplistes en même temps. Il était très attaché aux données. Donc, Malin Vaux, tout au long de sa carrière, a toujours refusé d'être un chercheur pur. Il a toujours l'idée que pour être un bon économiste, il faut mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire pour un macroéconomiste, suivre effectivement la conjoncture économique, donner des avis au prince et non pas avoir des théories en chambre comme certains économistes d'inspiration néoclassique, hein, qui ont des modèles dans lesquels ils font l'hypothèse que les agents sont parfaitement rationnels, qui sont capables d'anticiper le futur, que les prix et les salaires sont parfaitement flexibles, et qu'on est toujours donc, si on peut dire, à l'équilibre le plus satisfaisant qui soit, tandis que Malinvaux, lui, connaît les déterminants des fluctuations économiques, lui, il est soucieux de faire une théorie qui essaye d'expliquer effectivement les fluctuations économiques telles qu'elles sont observées.
Merci beaucoup, Henri Sterdignac, de nous avoir fait découvrir cet ouvrage d'Edmond Malinvaux. Je rappelle le titre de l'ouvrage collectif des économistes atterrés que vous avez coordonné, Macron, un mauvais tournant, paru au Lien qui libère. Un grand merci. Entendez-vous l'écho, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès lundi à 14h pour une série consacrée à l'or. En attendant, vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.